Bonjour, c'est Jean-Philippe Courtois et mon podcast Positive Leadership. Le podcast qui vous aide à progresser en tant que personne, en tant que leader et enfin en tant que citoyen au sens le plus large.
L'histoire que j'ai envie de raconter, c'est une histoire positive, une histoire d'espoir. Je pense que le système capitaliste nous a emmenés dans une direction qu'on peut utiliser pour créer une société où il fait bon vivre, une société dont on est fier, qui est plus centrée sur l'humain et sur notre rapport à la nature et au vivant de manière générale. Une histoire où on construit des véhicules à impact qui se reposent sur des modèles économiques efficients qui nous permettent de changer les choses pour le meilleur le plus vite possible.
Dans ce podcast, je rencontre un grand nombre d'entrepreneurs, de CEO, de changemakers qui ont décidé de placer l'impact au cœur de la mission de leur entreprise, de leur stratégie et bien sûr de leurs produits. Dans ma recherche, j'ai évidemment pensé à mon invité d'aujourd'hui, Lucie Bache, qui m'a vraiment impressionné par sa détermination et son parcours. Après des études d'ingénieur à l'école centrale et de logistique à l'université de Cranfield au Royaume-Uni, Lucie a cofondé Too Good To Go, trop bon pour être jeté en français, une application que beaucoup d'entre vous connaissent, révolutionnaire, qui a évité de gaspiller l'équivalent de 300 millions de repas et qui compte plus de 75 millions d'abonnés dans 17 pays, dont 15 millions en France. Des chiffres incroyables qui en font la start-up spécialisée dans la récupération alimentaire, affichant la plus forte croissance en nombre d'usages et de téléchargements. Lucie, je suis très heureux de t'accueillir dans ce podcast. Tu vas nous parler de la création d'une entreprise qui est presque devenue un mouvement, j'allais dire, et qui réalise un équilibre à la fois économique, financier et d'impact. Donc, une très chaleureuse bienvenue à toi, Lucie.
Merci, ravie d'être là.
Alors, j'aimerais qu'on commence, Lucie, par le commencement. Tu as grandi à Paris et déjà, au tout début, tu fais preuve d'une grande détermination et tu recherchais des choses qui avaient un sens. Alors, parle-nous un petit peu peut-être de ton enfance et comment cette enfance t'a préparé, ou pas d'ailleurs, à devenir une entrepreneur à impact.
Effectivement, j'ai grandi à Paris avec des parents qui faisaient des professions libérales, avec un grand frère et une petite sœur totalement différents de moi. Et ils sont tous les deux dans le cinéma aujourd'hui. Ah. Ils ont un côté beaucoup plus artistique et créatif que moi, qui suis un peu la matheuse et ingénieure de la famille. Et je pense que mes parents ont été très intelligents dans la façon dont ils nous ont élevés. C'est-à-dire que mon frère était plutôt dernier de la classe. Moi, j'étais plutôt première de la classe. Et pourtant, j'ai jamais grandi en me disant je suis plus intelligente que lui, ouais, ou je suis meilleure que lui. Ils ont été très bons à nous expliquer que, en fait, chacun était différent et que l'éducation reconnaissait un type d'intelligence, mais que finalement, il y en avait plein d'autres.
Et, plein de modèles, bien sûr. Ouais.
Moi, quand je regarde leurs films, parfois, je ne comprends rien et je me sens totalement bête là-dessus. Et eux, inversement, quand ils voient mon métier aujourd'hui, ils se disent « Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Elle est complètement folle. » Donc ça, j'ai vraiment grandi avec cette idée que il n'y a pas une seule façon d'être bien, de réussir ou d'être intelligent. Et je pense que ça m'a donné beaucoup de liberté d'esprit et de confiance en moi aussi sur l'idée que quand on veut, on peut et que on peut tourner énormément de problèmes en solutions. Et donc, c'est vrai que j'ai une personnalité qui voit assez systématiquement le verre à moitié plein.
C'est partagé, je le vois aussi.
Ça m'aide pas mal.
Est-ce que du côté de tes parents aussi, ton papa, ta maman, peut-être, il y a eu aussi soit une forme de modèle ou une forme au contraire de...
En fait, j'ai réalisé ça assez récemment. Ouais. Mais effectivement, des deux côtés, il y a beaucoup d'entrepreneurs dans la famille.
D'accord.
Mais en fait, on ne les a jamais vraiment présentés comme des entrepreneurs, ouais, parce qu'il n'y avait pas le côté start-upper. Mais plus, en fait, mes grands-parents paternels sont arrivés de Roumanie et de Pologne après la guerre. Ouais. Juifs tous les deux, donc assez traumatisés aussi de leur aventure de vie. Et ils ont créé leur usine de tricot dont les ateliers étaient à Belleville ils avaient une quinzaine de salariés.
Des vrais entrepreneurs.
Exactement. mais en fait, on ne les a jamais présentés comme des entrepreneurs. De la même manière, mon père était radiologue et donc il avait son cabinet de radiologie et donc de la même manière, il avait son entreprise et ses salariés. Et du côté de ma mère, mon grand-père était bûcheron, puis donc à son compte, puis promoteur, assureur et donc il a monté son entreprise aussi avec ma grand-mère qui l'a aidé toute sa vie, en plus que d'élever 5 enfants. Ma mère est avocate profession libérale et donc elle a toujours exercé à son compte. Et donc finalement, sans m'en rendre compte, effectivement, j'ai personne de ma famille très proche qui est en CDI dans une entreprise, finalement. Et donc peut-être que ça m'a donné, en tout cas, une liberté de l'envie d'entreprendre.
En tout cas, plein de rôles, d'industries ou de métiers très différents aussi, visiblement, qui ont pu t'inspirer. Alors un peu plus tard dans ton parcours, je crois que tu as été témoin aussi d'un moment donné à l'université, d'un gaspillage alimentaire, hein, qui malheureusement se passait ou se passe encore d'ailleurs dans trop d'endroits. Et tu as commencé à faire quelque chose pour que ça change. Alors c'était quoi? Ça s'est passé comment? Et qu'est-ce que
ouais.
tu as fait?
Bah, en fait, c'est vrai que j'ai toujours été personnellement très sensible au gaspillage ouais. alimentaire, mais plutôt parce que j'ai un esprit très rationnel. Il y a de la nourriture, c'est bon, et il y a plein de gens qui ont besoin de se nourrir. Donc pourquoi la jeter alors qu'elle est encore bonne à être mangée justement? Et donc j'avais toujours, c'était un peu le gag avec mes amis, même petites, qui me ramenaient leur yaourt périmé, leur banane où il y avait trop de noir sur la peau. Alors qu'en plus, à chaque fois que tu l'ouvres, ouais, elle est parfaite à l'intérieur. Et même s'il est un peu noir, bah, c'est juste plus sucré et c'est tout aussi bon, voire meilleur. Donc j'étais un peu connue comme ça. Et c'est vrai qu'à l'université, quand je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de conférences organisées au sein de l'université et que je voyais que tous les buffets à la fin de la conférence partaient à la poubelle, ouais. alors que nous, on était tous étudiants, qu'on avait des tout petits budgets pour manger et qu'on était ravis d'avoir la nourriture de conférence qui est plutôt de bonne qualité en général. Je m'étais battue pour qu'effectivement, à la fin de la conférence, on mette tout simplement un petit panneau sur le buffet en disant « ce buffet sera débarrassé dans 10 minutes ». Ah, d'ici là, servez-vous.
Allez-y. Ouais.
Et donc, finalement, c'était peut-être les prémices de Too Good To Go quelques années plus tard. Mais c'est vrai que, en fait, je l'ai vraiment fait plutôt par cohérence et envie de faire sens, plutôt que même par conscience écologique. J'avais pas du tout pris conscience de l'ampleur de l'impact du gaspillage alimentaire sur la planète.
C'était du bon sens pour toi, tout simplement,
exactement,
de ne pas gâcher. Alors ensuite, tu es parti au Royaume-Uni, tu as terminé ton master, et puis tu es rentré dans une grande maison de l'alimentaire, Nestlé.
Tout à fait.
Et je crois que tu es pas resté très longtemps, 18 mois, même si tu vas nous en parler, c'était,
ouais.
je pense, un très bon passage, une très bonne formation, j'imagine.
Tout à fait.
Et en fait, tu as démarré peu de temps après ça ton projet entrepreneuriat. Alors, explique-nous un petit peu ces 18 mois, peut-être la prise de conscience que tu as eue en disant que tu es dans une voie royale peut-être chez Nestlé pour faire une superbe carrière, mais non, je m'en vais.
Bah, c'est vrai que moi, l'alimentation, c'est toujours mon sujet. Je trouve que c'est un sujet passionnant et qui rallie tout le monde. Et c'est vrai que du coup, rentrer chez Nestlé, en plus en graduate programme, qui est un programme où on fait un tour d'entreprise et qui forme les futurs leaders de l'entreprise, j'ai trouvé que c'était une opportunité incroyable, notamment en me disant, si j'arrive à faire évoluer un groupe comme Nestlé, ne serait-ce que d'1% plus impactant, plus positif sociétalement, l'impact est absolument énorme. Donc j'étais pleine de courage et d'espoir en intégrant le groupe au Royaume-Uni. Et donc j'ai eu un tour d'entreprise effectivement totalement passionnant, où je suis passée d'usines de bouteilles d'eau en plastique à des usines de café, à les industries du pet food, de la confiserie. Donc c'était vraiment, moi j'ai appris énormément de choses et j'étais tous les jours sur la chaîne de production.
Ouais.
Donc pour moi qui avais grandi à Paris d'une maman avocate et d'un papa médecin, bosser avec des ouvriers d'usine dans des bleds de 1000 habitants sur la chaîne de production, c'était vraiment ce dont j'avais besoin pour me ramener au monde réel un peu et me sortir de mon entre-soi parisien peut-être. Et donc c'était absolument passionnant. Par contre, très rapidement, je me suis rendu compte que la façon dont on produisait de l'alimentation aujourd'hui me semblait assez décorrélée des réflexions écologiques, des réflexions de santé. Quand même, ce qu'on met dans notre corps au quotidien, bien évidemment, ça a un impact sur notre santé, notre bien-être.
Absolument.
Et c'est vrai qu'à l'époque, sur les chaînes de production, ça n'était même pas une considération, en fait.
Ouais.
Et donc, je me suis rendu compte que mon boulot, c'était l'amélioration continue, en plus.
Des process.
Donc, c'était comment est-ce qu'on produit le plus vite possible, le moins cher possible, quitte parfois à avoir plus de défauts sur la chaîne et donc plus de gaspillage. Mais en fait, l'important, c'était le coût marginal de chaque produit.
Ouais.
Et en fait, je me suis retrouvée à faire des projets qui étaient célébrés comme un vrai succès de l'entreprise, alors que finalement, ils produisaient plus de déchets.
Plus de déchets.
Et c'est là que ça a commencé un peu à me titiller en me disant, en plus moi quand je fais les choses, je les fais à 200%, et donc je me levais à 5h du matin, je bossais sur les shifts, je finissais à 20h, j'habitais sur le parking de mon usine.
Carrément.
Donc j'étais vraiment à fond, et c'était tout aussi passionnant et enrichissant que un peu décorrélé de plus en plus de mes valeurs personnelles et de la vision que j'avais aussi pour le monde de l'alimentaire de demain.
L'entrepreneuriat social consiste à développer de nouvelles organisations innovantes dans le but de résoudre des problèmes sociaux et environnementaux. Et Lucie possède en abondance, évidemment, toutes les caractéristiques classiques d'une entrepreneur sociale. Elle est naturellement curieuse des gens et des problèmes qu'ils rencontrent, ce qui est fondamental. Elle est aussi pragmatique, mais elle est très déterminée. Et il est vite apparu qu'avec son énergie phénoménale et son profond désir de changement, le travail dans une entreprise n'était sans doute pas fait pour elle. Elle a commencé à se demander comment coder une application qui permettrait à tout le monde de faire un geste concret pour réduire le gaspillage alimentaire, alors qu'elle travaillait encore chez Nestlé.
En fait, j'étais rentrée chez moi à Noël, je crois. J'étais passée devant une boulangerie qui était en train de jeter plein de produits. Et j'avais proposé de les récupérer. M'avait dit non, j'ai pas le droit de vous les donner. Du coup, j'avais dit bon, bah tant pis, je vous les achète, même si c'est déjà la fermeture. Et elle m'avait finalement donné beaucoup plus de produits. Et je me rappelle, j'étais rentrée chez moi hyper contente. J'en avais parlé à tout le monde en disant regarde tout ce que j'ai récupéré, etc. Et c'est là que ça avait un peu fait tilt en me disant si cette petite expérience qui vient de se passer, qui m'a réjoui, qui a réjoui la personne qui me les a donnés et qui a réduit le gaspillage, pouvait se reproduire à large échelle, ça serait absolument incroyable. Et donc, du coup, j'étais allée sur le site du zéro de retour sur le parking de mon usine en Angleterre et j'avais commencé à coder un peu l'appli.
D'accord.
Je me suis rendu compte que j'irais pas très loin avec mes talents de fausse développeuse et que donc c'était peut-être l'occasion d'aller chercher des gens qui pourraient m'aider à coder l'application. Et donc, et après, quelques mois plus tard, j'ai entendu le discours de Steve Jobs qui parlait aux étudiants de Stanford disant soyez sûr de toujours suivre votre passion dans la vie et une fois que vous l'avez trouvé, mettez toutes vos efforts et vos énergies à vous y atteler. Et donc c'est à ce moment-là que je me suis dit allez, il faut y aller. Et 6 mois du haut de mes 22 ans, sans crédit, sans enfant à charge, je n'arrive pas à faire le saut vers allez, je tente. Qui va le faire finalement et quand est-ce que je le ferai? Et donc j'ai pris le pari.
Donc tu as pris le pari. Alors je me rappelle d'ailleurs pour tous nos auditeurs, c'est un super discours qu'on trouve toujours sur YouTube de célébration d'université
de Stanford,
des étudiants. Donc il donnait vraiment l'étoile du Nord pour chacun des étudiants de Stanford à l'époque.
Tout à fait.
Alors je crois que tu es parti en Scandinavie ensuite, Lucie.
Exactement.
Et c'est là où tu as rencontré, je ne sais pas si c'est par accident, mais tu as allé à une conférence, je crois, tes futurs associés et qui étaient pas mal dans les pays nordiques notamment. Ça s'est passé beaucoup dans les Nordiques, entre Danemark, Norvège, etc. Parle-nous un petit peu de cette période-là, comment ça s'est fait.
Donc en fait, je quitte Nestlé avec l'envie de lancer mon projet. Je pars m'installer en Scandinavie avec aussi l'envie de rencontrer tout un tas de personnes. Je m'intéresse pas mal à l'économie collaborative, à l'économie circulaire. Et je rencontre énormément de gens. Et à chaque fois, quand on rencontre des gens, ils disent « toi, tu fais quoi dans la vie ?» Donc forcément, il faut une réponse, c'est la pression sociétale. Et donc je dis, je lance mon appli sur le gaspillage alimentaire. Et donc finalement, en parlant du projet, il se concrétise de plus en plus dans ma tête, où on me pose des questions, du coup il faut trouver les réponses. Et donc finalement, et moi j'encourage toujours à partager ces idées quand on en a, parce que moi c'est vraiment en partageant l'idée de plus en plus que j'ai commencer à la concrétiser encore davantage dans ma tête.
Parce que tu reprends l'input, tu prends d'autres perspectives, d'autres questions qu'il faut réfléchir
qui
beaucoup plus en profondeur.
Ce qui fait tilt, ce qui fait pas tilt, ce qui est clair, ce qui l'est pas. Donc assez intéressant. Et en fait, au fur et à mesure que je parle du projet, j'entends un jour parler de gens qui sont en train de faire exactement la même chose que moi. Donc, c'est quelqu'un à qui je raconte le projet. « Ah bah oui, mais ça existe déjà. Moi, je connais des 4 garçons au Danemark qui sont en train de faire la même chose, etc. » Donc là, je me dis « Non,
trop tard.
J'ai même pas encore commencé. Il y a déjà des concurrents, etc. » Et en fait, il se trouve que la conférence à laquelle j'étais s'appelait « Collaboration is the new competition ». La collaboration, finalement, c'est la nouvelle façon.
« Open collaboration ».
Exactement. Et donc, je me dis « en fait, non, c'est peut-être super, je cherche des associés, ils sont en train de faire la même chose, donc je les appelle. » Et effectivement, eux, très vite, me disent « c'est top, nous, on est au Danemark. En plus, effectivement, il y a de plus en plus, on sent qu'en Norvège, on pourrait faire plein de choses. Donc, si toi, t'es là-bas, vas-y, démarre. »
Démarre en Norvège.
Et donc, si tu veux, je fais mes flyers, ni une ni deux, et je pars. À l'époque, ils ont qu'un site WordPress.
D'accord.
Qu'ils ont, mais par contre, ils ont l'un d'entre eux qui est développeur.
D'accord.
Et qui est en train de coder
une application,
etc. Eux, à la base, ils ont pensé le concept que pour les buffets à volonté, qui existent beaucoup au Danemark, mais qui n'existent pas du tout en Norvège. Et donc moi, en tant que Français, je leur dis « Mais non, moi, c'est sur la boulangerie que je veux le faire. » Et donc finalement, au fil des discussions, on part sur aller contacter tous les commerçants alimentaires, eux à Copenhague, moi à Oslo avec une Norvégienne, et lancer le concept de Too Good To Go finalement.
Et comment fonctionne le modèle économique alors?
Alors le modèle économique, il est gagnant-gagnant-gagnant.
Ouais.
Donc le consommateur, vous payez un tiers du prix.
Ouais.
Le commerçant, vous allez récupérer une somme sur des produits que vous alliez jeter à la poubelle et payer des traitements de déchets par ailleurs. Et donc en fait, sur les 4 euros, Too Good To Go prend une commission d'environ 1 euro, ça dépend des pays. Et donc sur les 4 euros payés sur l'application, nous, en fin de période, on va renvoyer 3 euros aux commerçants.
D'accord.
Et donc, encore une fois, c'est cette idée de, avec quelque chose qui partait à la poubelle,
ouais.
on crée de la valeur économique et donc on la répartit entre les différentes parties que sont le consommateur, ouais. le commerçant et l'application.
Non, j'adore cet équilibre un petit peu, cette balance économique entre les trois grands protagonistes finalement. Au niveau d'ailleurs de tous ces... de tous ces acteurs partenaires que vous avez, points de vente, commerçants, etc. Qu'est-ce que ça représente à peu près en termes de marge supplémentaire peut-être dans leur activité? Est-ce que c'est important aussi?
Complètement. Bah, déjà, c'est vraiment de la marge nette ouais. supplémentaire puisque c'est des produits qu'ils auraient jetés et ça, en fait, nous, on leur fait un virement tous les mois ou tous les trimestres
D'accord.
en fonction
ouais.
de l'argent supplémentaire qu'ils ont généré. Et donc, au début, on leur disait de le rajouter en chiffre d'affaires exceptionnel. Et alors après, ça dépend vraiment, comme on a tout type d'industrie, entre ouais. les supermarchés, les boulangeries, c'est vraiment différent pour chaque business.
Chaque
et l'idée,
modèle.
C'est que ce soit une petite partie, parce qu'on leur dit toujours, hein, si votre modèle économique repose sur Too Good To Go, vous êtes mal barré.
Non, c'est pas...
Donc, c'est pas l'idée.
Ouais.
Et nous, d'ailleurs, ce qu'on leur met en avant, c'est que numéro 1, ça leur permet de plus jeter.
Mm-hmm.
Numéro 2, ça leur génère un nouveau flux de clients
ouais.
qui vont les découvrir via l'application et goûter leurs produits et revenir potentiellement entre
acheter
midi et 2 à des
sûr.
Heures plus classiques, ouais. choisir les produits qu'ils souhaitent avoir. Et numéro 3, c'est une vraie image de marque engagée dans la réduction du gaspillage alimentaire qu'ils peuvent mettre en avant. Et moi, je dis toujours aux commerciaux de Too Good To Go, c'est sur ces trois arguments que vous devez convaincre.
Ouais.
Et pour qu'on arrive à la question, bon, ok, ça a l'air top votre truc, mais ça va me coûter combien?
Ouais.
Ah ben non, ça va rien vous coûter, ça va vous rapporter de l'argent. Et là, c'est bon, on commence tout de suite et c'est la magie.
Si le gaspillage alimentaire était un pays, ce serait le troisième émetteur de gaz à effet de serre derrière les États-Unis et la Chine. Oui. Eh bien, tout ça parce que 40% de la totalité des aliments produits dans le monde finissent non consommés chaque année. Et quand la nourriture se retrouve dans une décharge, elle produit d'énormes quantités de gaz à effet de serre. Le gaspillage alimentaire survient à de nombreuses étapes de la chaîne d'approvisionnement. Depuis les produits qui se gâtent dans les semi-remorques jusqu'à la surproduction dans les exploitations agricoles, mais plus de la moitié de ce gaspillage a lieu chez les consommateurs. D'où le gros intérêt, bien sûr, de l'application Too Good To Go, de Lucie, qui permet à chacun d'entre nous d'agir. Les utilisateurs d'applications peuvent chercher des restaurants, des boulangeries, des épiceries près de chez eux et acheter des paniers surprises remplis de produits non vendus, que ce soit des bagels, des nouilles chinoises, des fruits et légumes invendus à la fin de la journée. Ces paniers sont vendus entre 3 à 5 euros, mais ils contiennent la nourriture pour environ 3 fois ce prix, si bien que, évidemment, les clients bénéficient d'une super remise. L'application a d'abord été lancée en Europe en 2015, puis aux États-Unis en octobre 2020. Elle est aujourd'hui disponible dans 17 pays. Plus de 200 000 entreprises sont inscrites sur la plateforme. Et Lucie dit que l'application évite ainsi de jeter 300 000 repas à la décharge chaque jour dans le monde entier. Alors justement, j'aimerais qu'on parle de ces phases assez phénoménales que Too Good To Go a connues, que tu as connues, que tu as réussi à développer, d'accélération d'hypercroissance. Et il y a un livre que j'ai bien aimé, parce que c'est quelqu'un que j'aime bien, Reid Hoffman, le livre Blitzscaling, tu sais, où il parle finalement du succès des entreprises en hypercroissance. Il met en avant trois modèles de Blitzscaling dans son analyse. Il dit soit c'est une innovation stratégique, soit c'est une innovation de business model, ou soit c'est une innovation managériale aussi, ce qui peut arriver.
Intéressant.
Voilà. Mm-hmm. Alors, selon toi, quelle est la recette magique de son succès? Parce que ouais. vous avez créé, évidemment, moi, ce que j'appellerais un social business model très innovant. Et donc, est-ce que c'est une stratégie d'innovation technologique avec l'app, ou bien pourquoi pas un nouveau modèle de quelque part de management des parties prenantes, comme on dit aussi, que vous avez, en considérant les intérêts, comme tu l'expliquais très bien, de toutes les parties prenantes, c'est quoi?
Je pense que c'est toujours un peu un mix. Hein. Il n'y a pas de recette magique, je dirais, mais déjà, pour moi, ce qui était très important, c'était un produit super simple. C'est-à-dire que l'appli, tu la pitches en 2 minutes, c'est très simple. Le bouche à oreille a fait énormément parce qu'en fait, tout le monde le comprend. Et du petit enfant à la grand-mère, en passant par la famille, les business, les gens actifs, etc., tout le monde le comprend.
Tout le monde peut utiliser.
Donc, je pense que s'accrocher à un produit super simple, c'est assez la clé de l'hypercroissance.
Ouais.
Deuxième sujet, s'attacher dur comme fer à ses valeurs, à sa vision, à sa mission, à pourquoi. Ouais. En fait, on dit tout le temps, c'est quoi le why?
Ouais.
Et pour moi, à chaque étape de Too Good To Go, il a fallu être sûr qu'on ne perde pas nos valeurs et que la façon dont on faisait les choses soit vraiment alignée avec la raison pour laquelle on avait voulu le faire. Et puis, je dirais que le troisième, c'est bien évidemment, et je sais qu'on se rejoint là-dessus, on fait rien sans les humains derrière. Ouais. Et donc, être en permanence dans la recherche d'équipes qui fonctionnent bien ensemble, de gens qui sont motivés par le projet, scindés autour de valeurs communes et à qui et qui ont une vraie expertise et à qui on laisse la possibilité de d'utiliser cette expertise.
Une marge de manœuvre, ouais,
complètement.
Ouais,
et en fait, je pense que le travail d'un entrepreneur dans une entreprise en hypercroissance, c'est en permanence se retirer des sujets, se retirer des sujets, se retirer des sujets, déléguer au maximum et accepter, connaître ses limites à soi pour laisser rentrer d'autres gens qui savent mieux faire que nous et les laisser faire leur boulot, en fait.
Ah oui, non, je pense que c'est un très beau résumé et j'aime beaucoup ton triptyque de simplicité et notamment du produit, parce que quand l'expérience produit est quand même critique, tout simplement, essentielle. Les valeurs, le pourquoi on est là. Et puis, les femmes, les hommes qui permettent tous les jours d'être alignés avec la mission de l'entreprise et de la véhiculer dans leur quotidien, quoi. Ça, c'est tellement essentiel. Alors, on parlait tout à l'heure un petit peu ensemble de tes associés. Mmh. Et je sais qu'à un moment donné, effectivement, je crois que c'était en 2017, avec 8 associés, c'est ça en tout, hein. Mmh. Il y avait les structures Too Good To Go en Norvège, au Danemark, en France, au Royaume-Uni. Mmh. Et là, vous avez fait preuve, moi, ce que je trouve un pragmatisme assez incroyable, en mettant d'accord tous pour favoriser la création d'un groupe Too Good To Go unique. Mm-hmm. Parce qu'au départ, il y avait vraiment des filiales différentes.
Ouais, complètement.
Mais du coup, en renonçant aussi à une part plus élevée du capital pour
complètement.
Toi.
Mm-hmm.
Alors, comment tu as abordé cette décision et est-ce que tu la regrettes aujourd'hui finalement ou
non,
pas?
Non, bien sûr. De toute façon, je ne regrette rien.
C'est bien.
Non, mais effectivement, en fait, on était tellement peu sûr. Moi, je n'imaginais même pas pouvoir me rémunérer un jour avec l'aventure Too Good To Go. Donc, de là à créer un CDI, puis 1200, ça me paraissait totalement inconcevable à l'époque. Donc, en fait, quand on a lancé Too Good To Go, comme on était tous de nationalités différentes, on s'est dit, chacun crée sa boîte et puis on verra plus tard.
Ouais.
Et donc, moi, effectivement, j'ai même pas eu de part dans l'aventure norvégienne. J'ai créé Too Good To Go France dont j'étais l'associé unique.
Ouais.
Ma collègue, future associée norvégienne a créé Too Good To Go Norvège, dont elle était 100%. Et puis, les 4 Danois ont créé leur structure danoise aussi. Et pareil en Angleterre. Et donc, finalement, ne s'est posé la question que d'association et de capital que quand on a vu que ça commençait à vraiment marcher, qu'on a eu des investisseurs qui ont été intéressés aussi de rentrer dans une structure, mais qui ne se voulaient pas que nationale, mais vraiment internationale.
Ouais.
Et donc, effectivement, c'est un an plus tard qu'on a conçu Too Good To Go International, dans laquelle on a apporté tous l'intégralité de nos entreprises.
D'accord.
Et donc, on est passé d'associé unique d'une entreprise où on possédait 100% de la boîte à finalement se partager un plus gros gâteau, certes, mais un gâteau. Et donc, la question, c'est bien sûr comment est-ce qu'on se le partage. Et donc forcément, là, il y a un moment en fait où ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est pourquoi est-ce que tu veux faire ce que tu es en train de faire et qu'est-ce qui t'importe. Et finalement, moi, la question de m'enrichir avec cette aventure, elle, c'était vraiment, j'avais jamais eu cette motivation en fait quelque part. Et puis en plus, à l'époque, on n'y croyait pas forcément complètement dans cette idée que si ça se trouve dans un an plus tard on n'existait plus.
Ouais.
Comme on sait que à peu près 9 startups sur 10 s'arrêtent dans la première année, on n'était pas très préoccupé par le long terme. Et donc finalement il a fallu s'entendre. Il y en avait pour qui l'aspect capitalistique était plus important que d'autres. Moi j'ai aussi fait partie de celles qui ont un peu lâché du lest. Mais c'est vrai que pendant cette période de réflexion, c'est une période où c'est très compliqué parce que de toute façon, c'est soit on se tape dans la main, soit on part chacun de notre côté. Et donc finalement, chaque jour, pendant toute cette période, chaque jour, tu te réveilles en te disant, est-ce que je suis en train d'aider mon futur concurrent ou est-ce que je suis en train maximiser ma boîte, etc. Et donc moi, j'ai quand même tenu à ce que cette période avance vite. Et donc c'est là où en fait, tu te poses les bonnes questions et tu lâches assez facilement en fait. À partir du moment où moi, mon intérêt, c'était de faire que Too Good To Go grandisse le plus vite possible et de vivre pleinement mon aventure entrepreneuriale, finalement, le capital, c'était secondaire. Et voilà. Et c'était bien évidemment, je pense, un très bon choix Parce qu'aujourd'hui, vaut mieux avoir une toute petite part d'un très très gros gâteau qu'une grosse part d'un petit gâteau. Et donc, et c'est ce qui s'est passé. Et je pense qu'aujourd'hui, on est tous ravis et même en termes financiers, on sortira de cette aventure beaucoup plus qu'on ne l'aurait imaginé. Donc,
et moi, je dis chapeau parce que connaissant pas mal de start-upers ou entrepreneurs qui ont été confrontés à des choix un petit peu avec des associés critiques, eh bien, je pense que vous avez fait le bon choix au bon moment.
Et c'est marrant parce que tous les gens à qui j'ai demandé conseil à cette époque-là, tout le monde m'a dit, mais ne signe pas ça.
Ne signe pas.
C'est, tu te fais avoir, en fait.
Ouais.
Et j'ai dit, OK, mais j'y vais quand même. Et en fait, je suis plutôt contente.
Bravo d'avoir suivi ton intuition aussi. Alors, en revenant un petit peu sur le modèle de Reid Hoffman, dans son bouquin, il parle de l'évolution d'une organisation en disant, au départ, c'est une famille, c'est moins de 10 personnes. Après, on passe à une tribu, c'est quelques dizaines d'employés.
Ouais.
Après, on passe à un village, c'est quelques centaines. Après, c'est une ville, plusieurs milliers. Voilà, vous vous trouvez maintenant vraiment au moment d'être une ville. Et peut-être même, à un moment donné, à celle d'une nation. Il dit, voilà, des dizaines de milliers d'employés, voire des centaines de milliers, etc. Alors, moi, j'aimerais que tu nous racontes un petit peu pas chacune de ces étapes, mais les premiers jours déjà de cette famille. et quelque part, peut-être une ou deux anecdotes après, quand c'est devenu une tribu ou un village. et en quoi ça t'a marqué ou aidé à grandir en tant que leader aussi, parce que c'est pas simple d'être au milieu d'une famille. Puis après, la famille, c'est plus la même chose.
C'est ça. Et puis en fait, au début, tu commences... Moi, j'ai commencé qu'avec des bénévoles autour de moi. Donc,
c'était que des bénévoles.
J'étais plus redevable d'eux que eux devoir me rendre des comptes.
T'es pas les salariés, en fait, au début.
Bah non, parce que j'avais zéro fond, en fait. Donc, moi, c'était les flyers, je les payais avec mon argent de poche. Et les cafés, on essayait de trouver les cafés où on pouvait rester le plus longtemps possible en consommant le moins de café possible. Enfin, on en était vraiment là.
C'est vraiment ça.
Je suis retournée habiter chez mes parents
et
je me suis nourrie en too good to go pendant les deux premières années, quoi. Donc, la première salariée qui m'a rejoint, je me rappelle, on a fait un entretien. Et à la fin de l'entretien, j'ai dit, écoute, c'est super, j'aimerais beaucoup travailler avec toi. Par contre, je peux pas te rémunérer pour le moment. Donc, ce que je te propose, c'est que tu commences comme ça.
Ouais.
Et si dans 3 mois, on y arrive bien, je pourrais commencer à te rémunérer en freelance. Et là, son sourire s'est décomposé. elle a raccroché. Et puis, elle m'a rappelé quelques jours plus tard en me disant, OK, on y va.
On y va.
Trois mois plus tard, elle se rémunérait en freelance. Un an plus tard, ça devenait la première salariée en CDI. Et 7 ans plus tard, elle avait un poste de directeur, de directrice d'une entreprise mondiale où elle a fait tous les échelons et elle a eu un parcours absolument incroyable chez Too Good To Go. Donc, c'est Camille que je salue notamment. Elle a pris le pari avec moi et finalement, c'était un bon pari aussi. Mais donc, c'est vrai qu'au début, on passe, on a une relation un peu bizarre et puis je suis assez d'accord, il y a ce stade de dès qu'on passe la barre des 10-11, on commence à être une vraie équipe.
Ouais.
C'est-à-dire que quelque part, en tant que manager, on se retrouve un peu exclu.
Ouais.
C'est-à-dire qu'on ne fait plus partie de l'équipe. Mmh. On est celle où, quand j'arrive dans la salle, on va arrêter de parler
de
la grosse stuff de ce week-end. Parce que, mais pas par... Et surtout qu'en plus, moi, je l'ai pris un peu comme une espèce de trahison au début, de « Hey, on est tous copains et en fait, vous m'excluez de ça. » Et en même temps, on le comprend assez naturellement où forcément, même s'il n'y a pas de hiérarchie dans les rapports au quotidien, il y a une réflexion de qui décide du salaire, qui décide de est-ce que je fais encore partie de l'aventure ou pas. Et donc finalement, mais on peut lutter contre autant qu'on veut. En fait, ça s'installe. Et moi, c'est vrai que j'en ai moins souffert à partir du moment où j'ai accepté et que je ne l'ai pas pris personnellement, mais que je me suis dit, c'est ça aussi, en fait, monter une entreprise. Donc ça a été une première réalisation quand même, la fois où où ils ont changé de sujet quand je suis arrivée dans la salle, ça m'a fait plaisir.
Ça marque un petit peu.
Et puis après, après on devient manager de manager et manager de manager de manager.
Teams
et après, on se retrouve aussi, notamment avec la presse, et moi, j'ai fait quand même pas mal de prises de parole publiques,
sur les médias.
Où en fait, les gens qui arrivent dans l'entreprise ont déjà écouté tes podcasts, tes interviews. Et du coup, quand ils arrivent, ils te regardent déjà, ils te mettent déjà
sur un piédestal
assez qui n'est pas toi, en fait.
Impressionné, oui, bien sûr.
Et tu te retrouves à avoir des gens de ton âge ou plus vieux que toi qui te vouvoient, qui sont pas du tout à l'aise quand ils te parlent. Et ça, c'est pareil, c'est difficile parce que ça change un peu les relations. En plus, moi, je suis très spontanée et je veux surtout rester hyper accessible. Je pense que je le suis resté d'une manière ou d'une autre. Mais c'est vrai que malgré tout ça, malgré les efforts qu'on peut faire en tant que dirigeant, les relations sont beaucoup moins naturelles qu'au début.
Comme beaucoup de choses dans la vie, c'est sur le tas qu'on apprend à gérer une équipe. Lorsque Lucie a démarré Too Good To Go, elle avait à peine plus d'une vingtaine d'années. Et quand la société est entrée dans une phase d'hypercroissance, elle a dû embaucher un grand nombre de nouveaux responsables. Et Lucie, bien, elle a appris au fur et à mesure. Et bien sûr, comme chacun d'entre nous, elle a fait des erreurs aussi. Il y a quelques années, elle a subi de sévères critiques personnelles sur sa façon de diriger. Et je me suis demandé comment elle avait vécu ce moment très difficile, aujourd'hui, rétrospectivement.
Donc la première réaction, bah c'est triste. Enfin, en fait, c'est dur, quoi, de se faire critiquer quand on donne autant ce qu'on peut dans une aventure. Et en même temps, voilà, moi je pense que moi j'ai toujours prôné le feedback,
ouais,
et de se dire les choses et aussi reconnaître que je savais pas faire, que c'était, ouais, la première fois que je montais une boîte, que je manageais des équipes.
Bien sûr, on sait pas tout.
et donc je n'ai jamais revendiqué le fait d'être parfaite ou de savoir exactement ce que je faisais.
C'était quoi le problème? Tu peux le dire
si... Et des petites histoires où on savait très bien d'où ça venait. Typiquement, un jour, moi j'arrivais tout le temps à 8h du matin au bureau et je suis arrivée et il y avait plein de gros sacs IKEA d'affaires.
Ouais.
Et donc j'ai dit en rigolant comme ça, il y avait 3 salariés dans le bureau. Non mais c'est quoi ce délire? Il y a un SDF qui a emménagé au bureau ou quoi? Et en fait, oula, c'était une de nos stagiaires qui venait se faire virer de chez ses parents.
Oula.
Et qui m'a dit « Non, je me suis fait virer de chez mes parents, etc. » À ce moment-là, mais immédiatement,
oui,
j'ai
sûr,
tout de suite pris la mesure de la bêtise de ma réflexion.
Ouais.
On est partis toutes les deux. J'ai fait, je suis vraiment désolée. Comment ça se passe? Comment est-ce qu'on peut t'aider? Derrière, elle a été suivie par les RH aussi,
ouais,
etc. Et donc, on a vraiment, enfin, je me suis excusée en disant, je suis désolée, c'est vraiment une mauvaise réflexion. J'avais même pas pensé que ça puisse se passer. Et 3 ans plus tard, c'est ressorti, hein, un jour, alors que je venais de m'aider de faire virer,
ouais,
la fondatrice rentre dans le bureau.
Bien
et
sûr, ouais.
Donc, et encore une fois, j'ai été totalement maladroite. C'est bête
ça
de dire ça.
Ça nous arrive à tous. Mais oui,
exactement.
Mais, ouais,
mais l'erreur,
ouais,
est humaine et
ouais,
je pense pas que ça vaille. Enfin, et derrière, on me dépeint comme si, enfin, les gens qui me connaissent pas en plus se disent, ah, mais elle est hyper méprisante, etc. Alors que, enfin, voilà, je pense que ceux qui me connaissent ne diraient pas ça. Et de la même manière, tu vois, quand je suis partie lancer les États-Unis.
Ouais, ouais.
On était en plein Covid et donc la frontière était fermée entre Schengen et les États-Unis,
oui,
et donc
oui,
il fallait sortir de l'espace Schengen.
Ouais.
J'imagine que tu en as fait les frais aussi. Il fallait sortir de l'espace Schengen, mais en tant que Français, il y avait peu de pays qui t'acceptaient aussi.
Ouais.
Et donc la technique, c'était de passer par les dom-toms, qui n'étaient pas Schengen mais qui étaient la France, donc où j'avais le droit d'aller en tant que Française. Et donc on s'est retrouvé 2 semaines de quatorzaine à Saint-Barthélemy.
Ah oui.
Ce qui, je peux t'assurer, je n'avais absolument pas envie d'être à Saint-Barthélemy quand la boîte en Europe s'écroulait, qu'on avait perdu 70% de notre chiffre d'affaires en 2 semaines, et que j'étais à 2 doigts de lancer les États-Unis avec des salariés qui étaient déjà recrutés et qui m'attendaient pour démarrer leur journée de travail.
Ouais.
Donc c'était juste le pire endroit sur Terre pour moi, sauf que pour aller à Saint-Barthélemy, l'avion de ligne classique qu'il faut prendre, c'est sur la dernière heure de vol, on te fait prendre un petit coucou de 12 places pour arriver sur l'île. Et donc, un des commentaires sur Balance ta Startup, c'était, alors que nous étions tous confinés à Paris, la fondatrice est partie en jet privé à Saint-Barthélemy. C'est de l'indélicatesse, quelque part. Et ça, encore une fois, on revient, moi je suis très spontanée, je dis un peu tout ce qui me passe par la tête, sans réfléchir à l'impact. Et effectivement, quand t'es à la tête d'une boîte de 1000 personnes, bah, quand tu dis un mot, le mot compte. Et il faut bien le choisir.
Non, mais
donc c'est des apprentissages, bien évidemment.
L'impact social, c'est vraiment au cœur même de son entreprise et d'autres initiatives que tu as aussi. Tu es devenu d'ailleurs, Too Good To Go, pardon, est devenu une bicorp aussi.
Mm-hmm.
Alors, est-ce que tu peux nous expliquer comment, voilà, malgré, j'allais dire, avec au contraire le succès rencontré, toi et tes associés, vous êtes restés finalement très centrés sur vos valeurs, j'ai l'impression, depuis la création.
Mm-hmm.
Et de me dire aussi, de manière candide, si vous avez reçu néanmoins des pressions de la part de vos investisseurs, parce qu'à un moment donné, bah, c'est pas des bénévoles uniquement. Il y a des investissements capitalistiques chez Too Good To Go.
Ouais.
Donc, assez significatif.
Mm-hmm.
Et pour arriver finalement à cet équilibre entre la rentabilité, bien sûr, et l'impact, hein, c'est le fameux yin et yang dont on parle dans l'entreprise à impact.
Complètement. Bah, notamment avec un contexte qui a quand même beaucoup évolué ces dernières années, post-Covid, avec la crise de la tech, avec la rentabilité est devenue une question encore plus pressante qu'elle n'était avant. Et puis aussi, en construisant Too Good To Go, en ayant envie de construire une entreprise, il s'agissait vraiment aussi de montrer qu'on peut faire les deux, en fait. Et c'était pas l'idée de dépenser des millions et des millions pour l'impact. C'était de se dire comment est-ce que c'est possible de créer une entreprise qui génère un bénéfice économique autant qu'elle génère un bénéfice sociétal, social et écologique.
Ouais.
Je pense que très, très tôt, on a posé sur le papier notre vision, notre mission et nos valeurs. Et ça, moi, je recommande à tout le monde de le faire.
D'avoir cette clarté voilà. face à des investisseurs.
Et en fait, c'est pas parce qu'elle est claire dans ta tête en tant qu'entrepreneur qu'elle est claire pour absolument tout le monde. Et d'ailleurs, quand on fait l'exercice de poser sa mission et sa vision, c'est pas si simple.
Non,
et,
très compliqué.
On dit, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Donc, autant faire l'exercice. Ça nous met face à nos questionnements aussi. Et parfois, on pense qu'on est tous d'accord. Et finalement, sur un mot, on s'arrête et on n'est pas du tout d'accord. Et donc, c'est un très bon exercice, je pense, de le faire et de le faire le plus tôt possible. Et puis, les valeurs, elles peuvent évoluer ou s'exprimer différemment au fur et à mesure de la taille de l'entreprise. Et donc, ça aussi, il ne faut pas hésiter à les revoir, les repenser. Ouais. Mais c'est important de les avoir écrites aussi et de recruter les salariés
sur
qui vont
critères.
Partager ces valeurs. Exactement.
Donc, vous êtes resté ferme là-dessus avec les, investisseurs. Et vous avez réussi à établir une feuille de route sur laquelle vous êtes resté fidèle à ces principes.
Bah, complètement. De la même manière qu'on recrute ses salariés, on a eu la chance de pouvoir recruter nos investisseurs.
Oui, ça,
et donc,
c'est une chance, complètement.
Mais donc, de prendre des investisseurs qui partageaient nos valeurs, qui avaient envie de nous pousser dans le respect de ces valeurs, justement, et qu'on soit tous garde-fous, en fait. Et moi, ça, je l'ai toujours dit en tant que dirigeant, tu n'es pas le seul responsable de la juste expression de ces valeurs. Tu as ta responsabilité, comme chacun des salariés ont leur responsabilité aussi de porter ces valeurs au quotidien. Et de la même manière, dans un board, il y a aussi cette réflexion de nous confronter à est-ce que ça va avec vos valeurs. Et notamment quand on est sur des sujets d'hyper-croissance, avec pendant longtemps, l'âge moyen de chez Too Good To Go, il était en dessous de 30 ans, donc avec un manque d'expérience assez important, en commençant par la mienne, où on va faire des erreurs.
Ouais.
Et donc, l'idée, c'est toujours que chacun puisse être garant de la juste expression de ses valeurs. Et je pense que c'est un combat de chaque jour qui n'est jamais terminé. Mais donc, voilà. Et non, je dirais que les investisseurs, c'est plus nous, en fait. On essaie toujours de trouver le juste équilibre entre performance.
Que vous challengez sur les
voilà,
deux,
c'est ça.
Les deux
et
facettes.
En fait, on a
les
aussi
facettes,
envie de... Ben voilà, quand on lance un pays, et que alors que la plupart sont rentables au bout de 18 à 24 mois, trois ans plus tard, on n'est toujours pas rentable, on se pose des questions, on se challenge.
On s'est un peu impatient.
Et il faut trouver toujours le juste milieu
bon équilibre.
Entre impact et rentabilité économique.
Et c'est quelque chose que j'ai bien ressenti aussi en visitant tes locaux, puisque tu m'as accueilli là-bas. Et je sais que tu ne contentes pas simplement de maximiser l'impact, donc par le nombre de repas sauvés, mais que tu recherches un changement plus systémique. Et je me souviens notamment, on s'était attardé auprès de matériaux éducatifs que tu as préparé avec tes équipes, bien sûr, auprès des écoles pour changer un petit peu la formation des enseignants, un petit peu le narratif autour de ça auprès des enfants, qui est un gros sujet aussi, je sais, pour toi sur l'éducation.
Oui.
C'est aussi tout le travail que tu fais au cœur de l'industrie alimentaire sur l'étiquetage, qui est un grand sujet en tant que tel, sur le manque de clarté finalement par rapport justement aux fameuses dates de péremption et autres de l'industrie alimentaire.
Mmh.
Et puis sur d'autres sujets aussi au cœur du secteur agricole. Je crois qu'il y a un rôle de coprésident du fonds de soutien aux producteurs notamment, et voilà, plein de choses. Donc aujourd'hui finalement, Lucie, en 2023, comment vois-tu ton rôle entre celui de Chief Expansion Officer, je crois que c'est le titre officiel, de CEO et de Chief Expansion Officer, j'adore le titre d'ailleurs, parce que c'est vraiment la croissance à la fois économique et de l'impact de Too Good To Go, au cœur du fonctionnement de son entreprise, son développement, plus de 1200 personnes aussi dans l'entreprise, et puis aussi le désir très fort que j'ai ressenti en toi, on en a encore parlé juste avant ce podcast, d'avoir un impact finalement beaucoup plus systémique. Au niveau des politiques publiques, sur des plaidoyers aussi de grande ampleur. Ça touche à l'éducation. Ça touche au monde de l'entreprise à impact. Alors, voilà. Comment te vois-tu aujourd'hui? Non pas la croisée des chemins, parce que ce sont tous de très beaux chemins, mais comment trouver cet autre équilibre, finalement, sur ces grands choix?
Justement, c'est le toujours plus qui revient, où j'ai tendance à avoir envie de beaucoup de directions différentes, justement. J'ai la chance aujourd'hui d'avoir une super équipe chez Too Good To Go qui fait tourner la boîte et qui gère ses développements futurs. Donc moi, ça me laisse aussi, enfin, je dirais, après 7 ans, l'opportunité de plus faire que Too Good To Go, parce que c'est une aventure tout à fait incroyable, mais qui prend aussi énormément d'énergie, de temps et de place dans ma vie. Et donc, c'est vrai que j'ai, au retour des États-Unis, j'ai aussi eu envie de m'attaquer à d'autres sujets. Mmh. On en parlait, mais le monde agricole, je pense que c'est un monde en souffrance, essentiel à nos vies, à tous. Ouais. On parle des gens qui nous nourrissent et qui sont rémunérés de manière totalement dérisoire pour certains. Donc, je pense que c'est important d'aller trouver des solutions aussi dans ce monde, même si c'est un monde complexe. Ouais. Qui est un monde très régional aussi. On peut pas avoir des solutions qui passent à l'échelle aussi facilement qu'un Too Good To Go peut-être. Donc c'est d'autres challenges, d'autres complexités. Moi je suis passionnée par apprendre. Donc là je suis partie effectivement 2 semaines à la rencontre des agriculteurs et pouvoir apprendre de leur métier, me rendre compte de la complexité du métier d'agriculteur, entre pouvoir produire de l'alimentation pour le bétail, entre gérer le vivant. Et en fait, le vivant, c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Ouais. Donc, accepter que c'est des rythmes totalement différents, que nous qui parlons de semaines de 4 jours ou de diminuer le nombre d'heures de travail.
Pas celui que cela,
on n'est pas sur les mêmes sujets. Donc, il y a plein de choses à réinventer dans ce sens. Et puis, tu le disais, effectivement, moi, l'impact sociétal de manière générale, voir l'entreprise comme un vrai véhicule à impact, je pense que c'est quelque chose qui me donne à moi beaucoup d'espoir sur le fait qu'on va pouvoir changer les choses assez rapidement. C'est si on arrive à faire que toutes nos entreprises se donnent comme mission principale d'aider leur, enfin d'améliorer les sujets dont elles s'emparent. Et donc, essayer de réussir à m'organiser pour faire que continuer à aider Too Good To Go du mieux que je peux, mais en reconnaissant que je ne suis plus un parent unique, il y a 1200 parents qui s'occupent du bébé. Ouais. Et puis en même temps, effectivement, pouvoir apporter ce que j'ai appris à d'autres entreprises comme C'est qui le patron, par exemple. Effectivement, pouvoir utiliser le réseau que Too Good To Go m'a permis de construire, et les ressources de manière générale, les mettre à bon escient pour maximiser encore davantage l'impact.
Sur ces très beaux sujets. Alors justement, quels sont un petit peu, quelles seraient peut-être les, alors c'est toujours difficile, hein, 2 ou 3 leçons de leadership qui t'ont le plus marqué? Positive comme peut-être aussi douloureuse, malheureusement. Ouais. Tu viens de nous en parler d'une, très très forte, mais il y en a des très positives aussi que tu as vécues, j'imagine. Donc,
Je dirais que donc sur la première, qui est peut-être un peu négative, c'est que la spontanéité n'est pas toujours bonne à garder, notamment quand la boîte se développe et que tu n'as plus une relation directe avec chacun des salariés. Mmh. Et en fait, plutôt que d'essayer, moi j'ai essayé pendant au bout de 2 ans, je voulais encore connaître les prénoms de tout le monde et je voulais encore avoir une relation et un impact sur la vie de chacun, être impliqué dans le recrutement de tous. En fait, non. Enfin, je pense qu'il faut pas essayer. Il faut reconnaître que c'est juste une posture différente que tu dois adopter en fonction de la taille de l'entreprise et rester toi-même, mais en comprenant que tu peux pas être sans filtre totalement. Ouais. Une deuxième leçon, c'est que être leader, c'est un job incroyable. Moi, je trouve ça, l'impact que tu as dans la vie des gens, c'est à la fois une vraie responsabilité qui pèse lourd sur les épaules de temps en temps, mais aussi une opportunité incroyable de vraiment aller jusqu'à changer la vie des gens, même si c'est un peu prétentieux de le dire comme ça, mais il y en a qui m'ont dit que c'était totalement développé, retrouvé, connu chez Too Good To Go et qu'ils avaient l'impression de pouvoir arriver en étant eux-mêmes au travail.
Ouais, ça donne une satisfaction énorme, ça.
C'est la meilleure reconnaissance qu'on puisse te donner. Donc, je pense que il faut le vouloir parce que c'est pas simple. Mais quand t'as une énergie de folie, ça se transmet directement aux autres et ça te donne de l'énergie. Et en même temps, les jours où ça va pas, vaut mieux pas venir au bureau de temps en temps parce que tu peux plomber tout le monde aussi très rapidement.
Ce dernier point me touche tout particulièrement. Je crois fortement à l'importance de gérer sa propre énergie positive de façon à être au mieux de sa forme pour faire face à chacun de nos engagements, professionnels comme personnels. Gérer son temps est une chose, mais gérer son énergie, ça n'a rien à voir. La différence ne se limite pas simplement à aller au bout des choses qu'on avait à faire. Ce qui compte, c'est d'investir et de donner le meilleur de soi-même à vos tâches qui sont les plus importantes dans votre vie. Gérer son énergie, c'est comme gérer son effort, comme un athlète le fait. C'est aussi vous autoriser à structurer votre journée de façon à ce qu'elle vous apporte de l'énergie dont vous avez besoin du matin jusqu'au soir. Cela peut passer par sortir, faire quelques pas, tout simplement, pour se détendre, ou prendre des courtes pauses pour vous aider à récupérer davantage d'énergie, à respirer, être plus productif. Parce que l'énergie positive est une chose qui se diffuse aussi. C'est contagieux, mais c'est une bonne contagion. Je t'ai frappé de manière par ton énergie positive. Voilà, c'est pas simplement le sourire, mais voilà, les vibrations positives qu'on ressent, la passion, la mission qui est chez toi à fleur de peau. Alors, c'est quoi tes pratiques, si tu en as, au quotidien, pour toi et la manière dont toi et auprès de tes équipes, finalement, tu essaies de propager à la fois, pas simplement tes pratiques, mais la manière d'apporter la meilleure version de Lucie quand tu les rencontres.
Ben, ça a pas mal évolué ces derniers temps et j'ai toujours cette phrase de ma grand-mère quand j'étais petite, elle disait « quand je me regarde dans le miroir, je vois ma meilleure amie ». Et je comprenais pas trop ce qu'elle disait et finalement je me suis rendu compte que la personne avec qui on va passer l'intégralité de sa vie, quoi qu'il arrive, c'est soi-même. Ouais. Et c'est vrai que du coup, je passe désormais plus de temps à entretenir ma relation avec moi-même. Avant, j'avais pas une soirée toute seule, j'étais tout le temps entourée de plein de personnes parce que j'adore les gens. Mmh. Quitte à me délaisser un peu moi-même. Et donc, j'ai décidé de réentretenir cette relation avec...
Tu prends du temps avec toi-même.
Ouais, tout à fait. Et puis, je me demande plus qu'est-ce que j'ai envie de faire. Ouais. Je me fais davantage de compliments aussi. Enfin, voilà, il y a une vraie relation d'amitié qui est en train de se nouer avec moi-même. Et je pense que c'est hyper important. Et c'est une nouvelle dimension, j'avoue, que j'explore tout à fait.
Superbe. C'est très bien de le dire parce qu'il y a plein d'entrepreneurs, entrepreneuses au sens large qui... souvent s'oublie trop dans la poursuite et la passion que l'on a.
Extraverti, fait, on est tellement intéressé par les autres qu'on s'en oublie soi-même.
Alors pour finir, parce que là, ça sera vraiment la dernière question, je souhaiterais partager avec toi en fait le témoignage d'une jeune entrepreneur, justement, une jeune fille de la communauté Live for Good, donc qui est cette association que j'ai créée il y a quelques années, qui s'appelle Claire Petro. Et Claire, elle a fondé les Pépites Vertes, c'est un média et une communauté qui vise à équiper les jeunes talents de la transition écologique. Voilà, un très beau projet. Et Claire, elle a écrit récemment sur LinkedIn un post que j'ai adoré, alors j'ai commenté. Qui dit la chose suivante. Elle dit « Aujourd'hui, je fais un pas de plus vers moi-même. En assumant cette nouvelle étape de ma vie, ce nouveau rôle, cette nouvelle mission, je suis une chef avec deux FE. Hein, et c'est pas grave. Non, pardon, je refais. Je suis une chef et j'assume avec fierté. Et pour toutes les chefs en devenir et pour toutes celles en poste, je suis une chef et c'est OK. » J'ai adoré ce poste. Alors toi qui es devenue une chef il y a déjà pas mal d'années, tu as démarré vraiment jeune, à la tête vraiment de l'un des plus beaux succès de l'entrepreneuriat à impact au niveau mondial.
Merci.
Que dis-tu à toutes ces jeunes femmes de tous horizons qui n'osent pas encore assumer leur posture de chef pour qu'elles deviennent elles-mêmes des leaders positifs qui peuvent changer le monde?
C'est une bonne question. C'est vrai que c'est pas simple et en même temps, on se le doit à nous-mêmes et on le doit aux autres, je pense, parce qu'on a une vraie place à prendre. Je pense que le monde s'en tirerait aussi... encore mieux si on avait davantage de chefs de ZFE. Donc on a cette responsabilité aussi en tant que femme de vraiment prendre les rênes. Et donc je pense que l'idée c'est d'y aller et de pas hésiter quoi. Oser pas trop se poser de questions, pas prendre confiance en soi et être fière d'avoir confiance en soi. Je pense que c'est une nécessité aujourd'hui et que finalement faut y aller parce que ça fait pas trop mal. Hein.
Non, ça fait pas. Tu as un très bel exemple. Dis-le, tu peux le dire très fort.
Voilà.
Vous écoutiez le podcast Positive Leadership avec Jean-Philippe Courtois. Si vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui, merci de me laisser un commentaire ou une évaluation et puis surtout d'en parler autour de vous. Faites-nous connaître. Si vous souhaitez recevoir davantage de conseils pratiques pour savoir comment intégrer des principes de leadership positif dans votre vie, inscrivez-vous à ma newsletter mensuelle gratuite « Positive Leadership and You ». Eh bien, écoute, c'est une superbe conclusion. Mille merci de tout ton temps et de tout ce que tu as pu nous donner pendant cet épisode, Lucie, et tout ce que tu vas continuer à donner aux agriculteurs, au monde de l'éducation, au monde de l'impact en général, et au plaisir de te rejoindre peut-être sur un certain nombre de ces routes.
Un grand plaisir.
Merci Lucie.
Beaucoup.
En attendant le prochain épisode, je vous dis au revoir.